solution. Moi, j'aime ça. Sérieux, moi, j'aime ça. J'aime prendre le temps de regarder mon année 2015. Et puis cette année, lorsqu'on a terminé l'année, à l'équipe ici au bureau, j'ai dit, mardi, on se rencontre. Je leur ai lancé un défi. Je leur ai dit, plutôt que de regarder quel projet vous voudriez avoir en 2016, commencez un pas en arrière. Regardez en 2015, qu'est-ce qui n'allait pas? Quels sont les domaines dans vos vies où, si dans 12 mois, vous étiez au même endroit, ce serait vraiment malheureux? Parce que Dieu ne serait pas glorifié, parce que vous ne seriez pas fiers de là où vous êtes rendu. Qu'est-ce qui doit absolument changer en 2015? Parce que c'est des domaines où vous glorifiez, en 2016, parce que c'est des domaines où vous ne glorifiez pas Dieu en 2015. Et commencez par ça. Et moi, j'aime ça, prendre le temps de faire ça. Comptez les bienfaits de Dieu, mais comptez aussi les endroits où Dieu doit travailler. Et je crois à ça. Je crois qu'on veut marquer le temps. On veut marquer le temps dans nos vies. Il y a des saisons et Dieu marque le temps dans l'histoire. Dieu marque le temps dans votre histoire personnelle. Et avant telle année, vous étiez à tel endroit dans votre foi. Après telle année, vous étiez rendu ailleurs. Ne serait-ce pour commencer par votre conversion. Le jour où vous avez connu Christ, vous savez au moins à peu près quand est-ce que ça s'est passé et votre vie a été profondément bouleversée. Mais Dieu continue à nous transformer encore à travers les années. Et donc ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment en 2016, on pourrait marcher davantage comme des amis de Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est tout à fait approprié dans le passage. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, c'est intéressant de vivre à notre époque où il y a énormément de liberté, beaucoup de liberté pour faire toutes sortes de choses, pour avoir des projets complètement fous dans nos vies individuelles, dans nos vies personnelles. On vit en Occident, Seigneur, et on a le droit de rêver énormément de choses. En même temps, on vit à une époque de grande liberté, Père, où on peut, dans bien des régions du monde, annoncer ton nom avec liberté aussi, vivre des valeurs publiquement, Seigneur. Et c'est encore notre privilège ici au Québec de pouvoir le faire avec une grande liberté même, je dirais, Seigneur. Et Père, on s'assemble ce matin en commençant l'année 2016 et on veut se pencher sur ta parole, Seigneur. On veut te demander de venir nous inspirer, de venir nous inspirer par ta vie à toi, Jésus, par tes enseignements. C'est intéressant, Seigneur, de voir combien, lors de ton ministère sur terre, le monde était en conflit avec toi et certains, quelques-uns, ont décidé d'être tes amis, Seigneur. Mais pareillement, aujourd'hui, en 2016, pour le Québec, Seigneur, et pour ta gloire, nous choisissons d'être tes amis et de marcher avec toi. Dans un monde qui, malheureusement, largement, Seigneur, est en conflit avec toi. On te demande de venir nous bénir et nous parler ensemble ce matin et nous convaincre là où on doit se repentir, Seigneur. Là où on doit se détourner de notre style de vie en 2015, Seigneur. Et consacrer davantage nos cœurs en 2016. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. 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 Ce matin, on couvre encore une fois un super long passage. Je pense, en fait, c'est mon plus long passage, d'accord? On couvre Luc 11, 14 à Luc 13, 35. Ça va presque trois chapitres. Alors, vraiment, ce qu'on fait, c'est un survol. C'est un choix qu'on a fait de survoler l'évangile de Luc. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Je sais que je me répète, mais qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de voler à haute altitude et en survolant, il y a des grands thèmes à travers l'évangile de Luc qui vont se dessiner. Lorsque j'étais en train de lire mes passages, tout ce long passage-là, lorsque j'étais en train de le lire, je voyais clairement, j'aurais pu prêcher 12 messages là-dessus, d'accord? Et en faisant ça, j'aurais pu aller davantage en profondeur dans plusieurs passages. Mais en même temps, il y a quelques grands thèmes, en fait deux grands thèmes qui sont très évidents, qu'on peut même résumer à un seul à travers tout ce passage-là. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin, c'est l'avantage de faire un survol ensemble. Ça fait environ 3 ans, lorsqu'on arrive dans ce passage-là, ça fait environ 3 ans que Jésus se promène un peu partout en Israël et qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle que le Sauveur, le Messie est venu vers les hommes pour sauver le peuple juif, mais aussi des gens de toutes les nations de la terre. Ça fait environ 3 ans et pendant ces 3 années-là, Jésus était assez discret. Si vous êtes familier avec les évangiles, l'espèce de jeu que Jésus vit avec ses auditeurs et puis avec ses disciples, où il révèle qui il est, mais pas tout à fait. Puis lorsque quelqu'un le saisit par une révélation de Dieu, il va commander même à la personne souvent de se taire et de ne pas dire ça, parce que son temps n'est pas encore venu. Maintenant, son temps approche. Jésus est en train de prendre la direction de Jérusalem. Et lorsque Jésus va se rendre à Jérusalem, il sait pertinemment qu'il s'en va vraiment vers le summum, vers le climax de sa mission sur terre, qui est d'aller mourir sur la croix. Et plus il approche de Jérusalem, au moment où il sait que le temps est accompli et qu'il prend cette direction-là, Jésus n'a plus rien à ce moment-là à retenir comme information. Parce qu'au moment où Jésus se dévoile le plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la confrontation qui éclate. Au moment où Jésus va devenir de plus en plus public et transparent sur la personne qu'il est, sur le rôle qu'il a à jouer, la confrontation va éclater essentiellement avec les chefs religieux. Et donc, dans le passage de ce matin, qui est quand même très long, c'est ça qui se passe tout le long. Il y a une tension qui est là, où Jésus va entrer en confrontation ouverte. Le ton va monter entre Jésus puis les chefs religieux. Et à un certain moment donné, en fait, à plusieurs reprises, Jésus va inviter ceux qui se disent être ses amis à prendre position. Prendre position pour ou contre lui. Et le ton va monter, le ton va monter, Jésus entre en confrontation et ça va se terminer avec cette complainte sur Jérusalem. Avant même que Jésus arrive là-bas, Jésus va prononcer cette complainte sur Jérusalem, qui était cette ville sainte, élu par Dieu pour vraiment être l'incarnation sur terre à travers tout l'Ancien Testament, à travers le peuple d'Israël. Dieu était présent, Dieu devait être présent sur Jérusalem pour manifester sa gloire parmi tous les peuples de la terre à Jérusalem. Et Israël devait briller. Et Jésus, à la fin, va prononcer cette complainte où on voit cette confrontation qu'il y a là entre Jésus, entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, si je vous résume très rapidement, prenez vos Bibles, s'il vous plaît. On va juste le survoler super vite, d'accord? Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Jésus appelle tous les hommes à prendre position. Tous les êtres humains sur terre. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas si toi, tu as pris position pour Christ. À travers les dernières semaines de l'année, on a eu des baptêmes. C'est des gens qui prenaient position pour Christ, d'accord? Je ne sais pas où est-ce que tu es. Mais Jésus appelle tous les hommes à prendre position. Et il les appelle ensuite de ça à servir la justice de Dieu. On va aller voir ensemble un peu c'est quoi ça. Servir la justice de Dieu de tout son cœur. Et enfin, une dernière chose, se tenir prêt pour le retour de Christ. Alors même que Jésus s'en va à Jérusalem, qui annonce qu'il s'en va mourir sur la croix, il annonce déjà qu'il va partir pour un temps et qu'il va enfin, à la consommation de toutes choses, Jésus-Christ va revenir. Et donc Jésus invite les hommes à prendre position, à servir la justice de Dieu de tout son cœur et à se tenir prêt pour son retour. Confrontation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le survoler super rapidement. Puis, je vais juste vous montrer très rapidement cette confrontation-là qui éclate. Il y a deux éléments qui vont sortir à travers le passage que Jésus haït, d'accord? Que Jésus déteste, qu'il exècre, qu'il n'est pas capable de sentir. Et le premier, c'est celui qui va sortir le plus fort. Jésus est extrêmement anti-religieux. D'accord? Les gens là, qui sont des grenouilles de bénitier, vous connaissez l'expression, des grenouilles de bénitier, les gens qui sont religieux, qui ont des principes, puis qui sont réservés, qui se préservent, mais en même temps, qui sont pas là pour le monde. Ils sont là en eux-mêmes, avec leur petite religion, ils font leur petite prière, puis ils sont toujours en train de regarder tout le monde autour d'eux d'un air condescendant, qui, dans le fond du cœur, ne reflète pas l'amour de Dieu, mais extérieurement, essaie à tout le moins d'en avoir toutes les apparences. Jésus haït ça pour mourir. Il n'est pas capable de sentir ça. Ça y pue au nez. Il n'est pas capable de supporter cette attitude-là. Et ça va sortir de manière très, très forte. Jésus est anti-religieux. Il veut une foi qui est vécue avec vérité puis avec simplicité. Et ce message-là passe super bien aujourd'hui. Je vous dirais que c'est l'aspect du message de Jésus qui passe le mieux. Les gens autour de nous veulent voir des chrétiens, les gens autour de vous au bureau veulent voir des chrétiens qui ne sont pas des religieux dans le sens péjoratif du terme. Mais ils veulent voir des gens qui vivent vraiment un amour sincère pour Dieu puis vraiment un amour sincère pour leur prochain. Et ça passe très bien comme message. parce qu'à quelque part, ça vient nous chercher dans nos racines profondes, puis je vous dirais dans les racines profondes du Québec, où malheureusement, c'est ça qu'on a compris du christianisme, c'est que c'était un truc de bonnes œuvres, de religiosité, où il y avait quand même, à travers toutes les bonnes œuvres, aussi une large part d'hypocrisie, puis des choses qui ne sont pas là, qui ne fitent pas vraiment avec qui est Jésus-Christ. La confrontation éclate lorsque Jésus, Luc 11, 14, Jésus va chasser un démon, d'accord? Il y a quelqu'un qui est super malheureux, qui est pris avec l'emprise d'un esprit démoniaque, et puis Jésus va intervenir, puis il va le libérer. Et là, summum de la bêtise ou de l'affront que tu peux faire à Dieu, ceux qui sont tellement de mauvaise foi commencent à dire, ben oui, il a chassé ce démon-là par Belzébul, par le prince des démons. Dans le fond, c'est parce que c'est un occultiste qui fait des sciences occultes. C'est quelqu'un qui est trempé dans la magie noire, puis c'est pour ça qu'il peut chasser des démons. Jésus leur dit, mais c'est absolument n'importe quoi. Tout ce que je fais depuis 3 ans, ce sont des bonnes œuvres, des miracles, des choses absolument extraordinaires. Et vous avez le comble de dire que je suis en train de faire ça par la puissance du diable. Luc 11, 14 et 15, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Évidemment, mais non. Quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et à partir de ce moment-là dans le passage, jusqu'à 13:35, jusqu'à la complainte sur Jérusalem, le ton va être extrêmement sévère. Là, Jésus en a plein son casque, comme on dit au Québec. Il a fini de niaiser avec ces pompons-là, puis il va les confronter sur leur bêtise. Et c'est littéralement ça qui se passe. Un petit peu plus loin, Jésus n'observe pas le rituel du lavement des mains. Oh, puis là, il y a un docteur de la loi qui dit, il doit être impur, celui-là. Jésus lui répond, malheur à vous. Oh, je m'excuse un petit peu avant. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé, au verset 38, 11:38, avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, la religiosité, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Après ça, il y a un docteur de la loi qui dit, « Ouais, mais si tu chiales contre les pharisiens, tu t'en prends aussi au docteur de la loi. » Ben, voici la réponse de Jésus. Il aurait peut-être mieux fait de se taire, celui-là. Et Jésus répondit, « Malheur à vous, docteur de la loi, à vous aussi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Et là, il leur reproche, il dit, vous avez créé toutes sortes de lois, vous prêchez toutes sortes de choses que vous n'appliquez même pas. Vous allez au-delà de la loi de Dieu même et vous n'êtes même pas fichu de l'appliquer pour vous-même. Hey, ceux qui aiment enseigner dans l'Église, les enseignants ici, c'est à vous que ça s'adresse. Ce passage-là, c'est à moi que ça s'adresse. Les parents, c'est à vous que ça s'adresse, ce passage-là. Vous savez, lorsqu'on enseigne nos enfants puis qu'on leur dit « tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça », on est en train de déposer une loi. C'est correct, il faut dire les choses qui sont bien, qui sont mal. Mais est-ce que je le vis moi-même? Et personnellement, alors que j'étais en train de m'examiner avec ce passage-là, puis je priais, puis je disais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à Yannick Étier? » Oh, je pensais à toutes ces années où j'enseigne à l'Église, puis j'examinais ma propre vie pour voir si moi-même, j'accepte de vivre ça, cette vie-là. Est-ce que je suis allé au-delà des Écritures? Est-ce que je suis légaliste? Puis je crée des lois qui dépassent les Écritures comme le faisaient ces docteurs de la loi? Est-ce que mes enfants doivent porter un style de vie qui n'est pas prescrit par les Écritures? Mais chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que papa est fier, puis c'est pas comme ça que tu vas vivre, mon petit bonhomme. Jésus n'est pas capable de sentir ça. Jésus va jusqu'à avertir la population du levain des pharisiens, mais plutôt de craindre Dieu. Luc 12, 1. Sur ces entrefaits, les gens s'étant assemblés par milliers au point de se fouler les uns sur les autres. Les uns les autres, je m'excuse. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est de l'hypocrisie. Parce que ces gens-là ne cherchaient pas à vivre véritablement dans leur cœur ce qu'ils prêchaient. Je continue, j'accélère un peu. Jésus est jugé pour avoir guéri une femme lors du jour du sabbat. C'était le jour du repos. Il ne fallait pas guérir une femme qui était malade depuis des années. Alors Jésus les attaque puis les traite d'hypocrites. Luc 13, 14 et 15. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Puis moi, je ne pourrais pas m'occuper d'une femme malade. Maudite race d'hypocrite. Et à quelques reprises dans le passage, Jésus ne s'en prend pas seulement aux chefs religieux, mais Jésus s'adresse à toute la génération qui est là et qui l'entend. Et ça va se terminer avec Jérusalem. Alors, Luc 11, 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Et donc, Jésus a jugé son époque, a jugé Israël à son époque. Maintenant, allez à la toute fin du passage. Luc 13, 35, 34, 35. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est non seulement cette génération, mais ce sont des siècles en Israël que Jésus juge ici. Et si Jésus est en colère puis s'attaque à l'hypocrisie des chefs religieux, c'est pas parce que Jésus les aime pas. C'est pas parce que Jésus aime pas Israël. Le jour où Dieu va manifester sa colère contre les hommes, il n'y a aucun homme qui va être capable de dire à Dieu, « Tu n'as pas aimé l'humanité. » Aucun homme. Il a donné son fils. Il a donné son fils parce qu'il aime les hommes. Et Jésus aimait Israël. « Voici votre maison, verset 35, vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Je fais juste une parenthèse, c'est vraiment intéressant. Jésus est en train de citer 2 passages dans l'Ancien Testament ici. Et puis on a le passage parallèle dans Matthieu, d'accord? Un peu le même événement. Puis on ne sait pas pourquoi Luc a décidé d'omettre un mot. Lorsqu'il dit « Votre maison vous sera laissée », Matthieu ajoute « déserte ». D'accord? Mais il y a ce « mais ». Jésus dit, c'est correct, je ne vous abandonne pas. Mais vous ne me reverrez pas jusqu'à ce que vous m'accueillez de la bonne manière. Et Jésus est en train de faire référence à 2 passages dans l'Ancien Testament. 1 passage dans le prophète Jérémie. Dans Jérémie, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Jérémie vient en conflit parce qu'il doit toujours annoncer des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles à Israël. Et il va toujours avec ces jugements-là, puis il trouve ça lourd de porter ça sur lui-même, puis porter ses jugements sur le peuple d'Israël. Et Dieu prend la parole. Et voici ce que Dieu dit dans Jérémie 12, 7. J'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage en parlant de la maison d'Israël, qui était le peuple que Dieu s'était racheté. J'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Et Dieu est en train de dire, crois-tu que ces châtiments-là annoncés, c'est de joie et de gaieté de cœur que je le fais? J'ai abandonné mon amour pour qu'un jugement tombe sur lui. Et c'est à ça que Jésus est en train de faire allusion lorsqu'il dit, votre maison vous sera laissée, mais je ne serai pas là, tant que vous ne m'accueillerez pas comme vous devez m'accueillir. L'autre passage qu'il est en train de citer, c'est le psaume 118, 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Il y a quelques passages comme ça où il y a des allusions messianiques. Et on peut penser que ça va se résoudre lorsque Jésus va rentrer à Jérusalem, puis les foules vont être là, puis « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais après, je pense que c'est dans Luc 19, Jésus va reprononcer encore une fois le même jugement, parce que cet accueil-là qui a été prononcé sur lui au moment où il rentre à Jérusalem, ça ne valait pas grand-chose. Quelques jours après, ils vont le crucifier, ils vont le livrer aux Romains pour qu'il soit crucifié, et la foule va être là pour le maudire. Et donc, Jésus est en train de prononcer un jugement sur la nation d'Israël, sur la maison d'Israël. Ceux qui aiment l'eschatologie, plusieurs y voient une allusion au fait que Dieu n'a pas abandonné Israël entièrement. mais qu'un jour, un reste d'Israël va revenir. Un jour, Dieu va restaurer un reste d'Israël. Et il y a d'autres passages, justement, qu'on voit un petit peu plus loin dans Luc, où il va parler du temps des nations qui va se terminer, du temps des gentils qui va se terminer. Jésus entre en conflit ouvert parce que Jésus haït l'hypocrisie. Il haït les fausses religions, il haït les religions qui sont pour l'apparat, pour l'apparence, pour se donner bonne conscience devant les hommes, comme si, avec des règles simplement, on pouvait plaire à Dieu sans vraiment examiner notre cœur. Et ce message-là passe super bien, comme je le disais tout à l'heure. Si c'était juste ça notre message, si c'était juste ça le message de Jésus qu'on avait annoncé aujourd'hui à notre époque, ça passerait super bien. Devenez chrétien. C'est quoi le christianisme? C'est la foi, c'est la religion qui déteste la religiosité. C'est la religion qui déteste juste le formalisme. C'est la religion qui déteste les apparences, mais qui, au contraire, veut quelque chose de vrai, de sincère, rempli d'amour. Hey, ce message-là, ça passe full-fledged. Aucun problème. Tu peux donner ça n'importe quand, n'importe qui. Mais si je m'arrête là, je donne une parodie du message de Jésus. Parce que Jésus lève le ton pour deux raisons. Excusez-le. Jésus lève le ton pour deux raisons. Il haït la religiosité et puis il haït le mensonge. Il haït ce qui n'est pas vrai. Laissez-moi le dire comme ça, OK? Parce que ça va sonner mieux dans notre contexte, dans notre époque, puis vous allez voir le lien avec la manière que les Juifs se comportent. Jésus en a contre le peuple d'Israël parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la parole de Dieu lorsque ça me dit des choses qui sont à la mode à notre époque. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu lorsque ça me dit « Aime ton prochain, Dieu est amour, l'amour c'est beau, aime tout le monde. » C'est vrai. Ce n'est pas seulement là que c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu d'un couvert à l'autre. Dans chacun de ses commandements, dans chacune de ses directives. Et tout l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, dans cette révélation de Dieu, Dieu annonçait la venue d'un Messie, la venue d'un Sauveur. Dieu annonçait que le peuple d'Israël, en lui-même, à travers sa religiosité, n'était pas un peuple qui honorait vraiment Dieu. Parce que ce que Dieu voulait, c'était quelque chose de plus grand. Ce que Dieu voulait, en fait, c'est quelque chose que les hommes ne sont pas capables de donner. Ne sont pas capables d'offrir par eux-mêmes. Et donc, Dieu annonçait à travers tout l'Ancien Testament qu'un sauveur viendrait, un Messie viendrait. Non seulement cela, mais que ce sauveur-là, ce Messie-là, viendrait brasser des choses, viendrait nous montrer à quel point on est hypocrite, viendrait révéler nos cœurs de pécheurs. Et déjà, ça dérange, ça commence à déranger ce message-là. Et ensuite de ça, ce qu'il annonçait, c'est que ce Messie-là, ce serait non seulement un sauveur, un prophète, mais ce serait l'envoyé de Dieu. Dieu fait homme, Dieu qui a marché parmi les hommes. Que ce sauveur-là viendrait mourir sur une croix d'une mort pitoyable, mais que cette mort-là serait le plus bel acte, le plus beau geste, ce qu'il y a de plus merveilleux dans tout l'univers, dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc Dieu avait annoncé qu'il s'incarnerait, Dieu le Fils viendrait mourir sur une croix pour le salut des hommes, pour le péché des hommes, et que tous ceux qui croiraient dans son sacrifice, et dans son sacrifice seul, dans aucune autre voie pour aller à Dieu, dans aucun autre chemin, ceux-là seraient sauvés pour l'éternité, entreraient dans le royaume de Dieu. Et la génération de Jésus, dans la grande majorité, a rejeté ce message-là. Ils ont donc rejeté la vérité. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Jésus lève le ton, parce qu'au moment où on arrive dans ce récit-là, c'est le temps de prendre position pour Jésus-Christ. Voyez-vous que ce message-là est moins facile à faire passer aujourd'hui? Parce que ça veut dire que je vais aller annoncer qu'il y a une porte pour accéder à Dieu. Il y a un chemin. Il n'y a pas 1000 prophètes, il y a un prophète. Il n'y a pas plusieurs prophètes. Tous ces livres-là ne composent pas un seul livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. Je suis désolé. La parole de Dieu s'arrête avec l'Apocalypse. Vous ajoutez d'autres prophètes. Joseph Smith est venu avec des révélations. Je suis désolé, ça ne vient pas de Dieu. Il y a une seule foi, une seule vérité. Et c'est ce que Jésus veut faire passer comme message. Jésus-Christ exige que ses amis prennent position. Alors voyez-vous, dans cette confrontation qui éclate, d'une part, il s'en prend à ceux qui ne veulent pas recevoir la vérité et qui veulent vivre de la religiosité, mais à un certain moment donné, il se tourne vers ses amis. Regardez avec moi chapitre 12, verset 4. Il ne sera pas affiché, juste tourner avec moi. « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » À un certain moment donné, Jésus s'arrête et dit, « Maintenant, dans cette foule-là que vous m'entendez juger sévèrement, cette génération méchante, quelques-uns sont mes amis. » Et le message n'est pas facile à faire passer parce qu'il faut mesurer ça. À l'époque de Jésus, la grande majorité des Juifs ont rejeté la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la grande majorité des Juifs rejettent la parole de Dieu. Oh, t'es pas all-inclusive, man. Pas très ouvert sur le monde. T'as pas voyagé beaucoup, hein, mon ami. Il y a beaucoup de religions. Combien de gens peuvent être dans l'erreur? Ça n'a pas changé encore au niveau des Juifs. La grande majorité des Juifs rejettent la parole de Dieu parce qu'ils rejettent Jésus-Christ. J'ai pas le choix. Si je suis un ami de Jésus, je vais prendre position pour lui. Voici comment Jésus le dit. Je les couvre rapidement. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quiconque se déclarera publiquement pour moi. Luc 12, 8. Je vous le dis. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme, qui est lui-même, le confessera aussi devant les anges de Dieu. On assiste à des baptêmes? C'est ça. C'est ça, des baptêmes. C'est confesser publiquement le nom de Jésus-Christ. C'est un pas de foi. Mais c'est un pas de foi qui est fait publiquement. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous, dans votre cœur, vous dites, « Moi, je suis un ami de Jésus. » Faites ton coming out, man. Faites ton coming out. C'est le temps de l'annoncer. 2016, c'est une bonne année. C'est une bonne année, 2016, pour dire, « Je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. » Pour afficher ma foi en Jésus-Christ. Christ n'est pas venu pour apporter la paix, car chacun doit choisir s'il est pour Christ ou non. Ça, c'est une parole dure à entendre. Mais Jésus aime les hommes. Jésus aime les hommes. Il n'est pas arrivé avec un épée et il a dit « varger dans le tas ». Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que quand je m'affiche pour Jésus, plein de gens vont être contre. C'est factuel. À la limite, Jésus n'est pas en train d'annoncer une prophétie. Il est juste en train de faire un constat de ce qui va se produire. Parce qu'il regarde sa génération puis c'est ça qui se produit. Luc 12, 51, 52. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? » Il est venu apporter la paix avec Dieu, la paix dans mon cœur, mais pas toujours la paix dans ma maison. « Non, vous dis-je, mais la division, car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. » Et ceux qui deviennent des amis de Jésus commencent à prier pour tout le reste de la famille. Ils persévèrent. Des fois, des décennies, puis Dieu fait des belles choses. Mais c'est vrai, quand l'Évangile rentre, C'est vrai que ça brasse. Il y a une seule porte pour accéder au royaume. Dans ce passage-là, Jésus fait toutes ces affirmations-là. Jésus est venu apporter la paix, mais premièrement avec Dieu. Mais il y a une seule porte pour accéder à Dieu. Jésus dit dans Luc 13, 23, 24, « Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas, parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. » Et enfin, qu'est-ce que Jésus dit dans le même passage? Il dit qu'il reviendra et qu'il faut se tenir prêt pour son retour. Luc 12, 39, 40, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hey, les obsédés du retour de Jésus, essayez pas de trouver la date, ça ne marche pas, d'accord? De toute façon, si vous la trouvez, ce n'est pas la bonne, parce qu'il dit que vous ne le saurez pas. Fait que donnez toutes les dates, ça ne sera pas celle-là, ça va être une autre. Mais la réalité, c'est qu'il va venir quand vous n'y pensez pas. Alors voyez-vous, Jésus entre dans la confrontation, mais non seulement il confronte, il invite maintenant ses amis à prendre position. À prendre position pour lui, il est à quelques temps d'être conduit à la croix, d'être crucifié. C'est le temps où tout doit être dévoilé sur sa personne. Jésus appelle tous les hommes à prendre position pour lui et à servir la justice de Dieu de tout son cœur, à se tenir prêt pour son retour. Lorsque Jésus parle à un moment donné avec le pharisien, il lui dit, « Vous ne deviez pas négliger la justice et l'amour de Dieu. » C'est un thème qui revient constamment à travers les Écritures. Ce que Dieu nous appelle à faire en 2016, si on est tous ici des amis de Jésus, mettons, ce que Dieu nous appelle à faire en 2016, c'est à prendre position, à porter son nom et à poursuivre dans nos cœurs la justice et l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche dans mon cœur, puis là je vais vous le donner de manière très concrète, d'accord? Mais je cherche dans mon cœur constamment à travers mes attitudes puis mes actions, à vivre d'une manière qui est conforme à la parole de Dieu. La justice de Dieu, ça se manifeste dans ma vie personnelle, mais ça se manifeste aussi dans mes rapports avec les gens. Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu est compatissant. Quand Dieu voit quelqu'un dans le besoin, son cœur est touché. Je veux vivre la justice de Dieu, je m'en vais vers les gens. Quelqu'un m'offense, c'est quoi que je fais lorsque je pêche? Moi, je demande à Dieu de me pardonner. Je vis selon la justice de Dieu, je pardonne à celui qui m'offense. Je ne retiens pas l'offense contre lui. Je vis la justice de Dieu, il m'a fait grâce, je fais grâce. J'aime à mon tour, c'est juste la justice de Dieu. L'amour de Dieu. Et donc ça, c'est premièrement une attitude envers Dieu, des actions envers Dieu, et ce sont des attitudes envers les gens, des actions envers les gens. Alors voici ce que j'ai fait pour terminer ce matin, d'accord? J'ai vu tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de fans des résolutions ici. Vous ne pouvez pas être contre la parole de Dieu. Fait que je vous ai piégé un petit peu, les amis. J'ai résumé en 7 résolutions. C'est juste pour les amis de Jésus en passant. J'ai résumé en 7 résolutions à travers ce passage-là, concrètement, ce que Jésus attend de ses amis. C'est bon? On les traverse rapidement. Les amis de Jésus, écoutent la parole de Dieu et croient Jésus. Luc 11, 28, et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » En 2015, est-ce que vous avez écouté la parole de Dieu? Est-ce que vous avez cru Jésus lorsqu'il vous parlait? Quand il vous demandait de faire un pas de foi, quand il vous demandait d'aller vers quelqu'un, quand il vous demandait d'être généreux, quand il vous demandait de lui remettre vos inquiétudes, quand il vous demandait de marcher dans la sainteté, est-ce que vous avez écouté la parole de Dieu? Est-ce que vous avez cru Jésus? Les amis de Jésus croient en lui. Écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. Les amis de Jésus prennent position pour Jésus-Christ. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Tu n'as pas fait ton coming out au travail? Trouve un moyen, mon homme. Tu n'as pas fait ton coming out en te faisant baptiser? C'est le temps, 2016, c'est une bonne année. Tu sais pas quand Jésus revient. Prends position dans ta famille. Prends position pour Jésus-Christ. Prends position pour tes amis. On connaît vraiment nos amis lorsque ça va mal, hein? Lorsqu'ils sont là pour nous dans le malheur, ben prends position pour Jésus en 2016. Les Québécois en ont besoin, puis c'est comme ça que tu vas glorifier Dieu. Craindre Dieu plutôt que les hommes. Je vous le dis, Luc 12, 4 et 5, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Les amis de Jésus ont une sainte crainte de Dieu, un respect pour Dieu qui fait qu'on veut lui plaire, on ne veut pas l'offenser, on veut marcher dans ses voies. En 2016, nettoyez l'intérieur par une constante repentance. On est tous des petits religieux. On est tous des petits religieux. C'est plus facile de faire mon checklist puis de me dire, me donner bonne conscience que chaque jour d'examiner mon cœur puis marcher dans ses voies. Luc 11, 39, 40, mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté, insensés. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait le dedans? » Dans Luc 13, versets 2 et 3, il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus grands pécheurs, de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? » Les gens qui étaient morts par un accident incroyable. « Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » En 2016, prenez la résolution comme ami de Jésus de savoir qui est là par son esprit, qui voit vos cœurs, et de marcher tous les jours en examinant vos cœurs. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants. C'est le moment par excellence pour faire le ménage à l'intérieur, pas juste à l'extérieur. En 2016, cherchez le royaume de Dieu plutôt que les biens de ce monde. Luc 12, 31, 32. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. On a tous 1000 inquiétudes, 1000 passions, 1000 désirs. En 2016, soyez des amis de Jésus en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vos inquiétudes, vos désirs, apprenez à les apporter au Seigneur, à les déposer aux pieds du Seigneur. Et appliquez vos cœurs à chercher le royaume de Dieu. Investissez-vous à fond, sans aucune retenue, comme si Jésus revenait demain. Investissez-vous à fond toutes vos ressources pour glorifier Dieu et pour servir votre prochain. Ça fait quelques années que je vous ramène ça constamment. C'est un des domaines où on doit grandir comme Église. Puis on a beaucoup grandi à travers les quelques dernières années. Mais vous savez, servir Dieu, ça se traduit concrètement. À part ce qui se passe dans mon cœur entre Dieu et moi, ça se traduit toujours par chercher le bien pour les gens autour de moi. C'est toujours ça. En fait, si tu cherches le bien des gens autour de toi et que tu le fais pour la gloire de Dieu, en connaissant Jésus-Christ, tu es toujours en train de faire la volonté de Dieu. Et donc, prenez toutes vos ressources, tout ce que Dieu a investi en vous et investissez-le à chercher le bien des gens autour de vous, à glorifier Dieu. Examinez comment en 2016, vous pouvez servir les gens autour de vous. Comment vous pouvez faire du bien autour de vous. Luc 12, 42, et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, s'investissant dans le royaume. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs, les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Alors il sera jugé. Ce que Dieu a investi en toi, c'est pour que tu l'investisses dans le royaume. Tous les talents, toutes les ressources, l'argent que Dieu te donne, le travail qu'il te donne, le temps qu'il te donne, les compétences qu'il te donne, l'intelligence qu'il te donne, la sensibilité qu'il te donne. Il te le donne pour que tu le glorifies en servant les gens autour de toi. C'est pour ça qu'il te l'a confié. Et enfin, soyez toujours prêts pour le retour de Jésus-Christ. En 2016, soyez prêts, il revient bientôt. Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'en doutera pas, puis ça va se produire là. Je les répète rapidement, juste pour les relire. Cette résolution pour les gens qui n'aiment pas des résolutions, mais qui aiment la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et croire en Jésus. Ou croire Jésus, j'aime mieux ça encore. Prendre position pour Jésus-Christ. Craindre Dieu plutôt que les hommes. Nettoyer l'intérieur par une constante repentance. Chercher le royaume de Dieu plutôt que les biens de ce monde. Investir à fond toutes ses ressources à glorifier Dieu et servir mon prochain. Et enfin, toujours prêt pour le retour de Jésus-Christ. Je vous invite cette semaine à prendre le temps de lire Luc 11, 14 à Luc 13, 35. D'accord? Deux chapitres et demi environ. À revoir le conflit qui apparaît et qui monte constamment à travers le passage, jusqu'à cette complainte sur Jérusalem, et à saisir en filigrane à travers ça constamment Jésus, qui dit en fait, qu'est-ce qu'on doit faire si on est des amis de Jésus? Et je vous invite cette semaine à prendre ces sept résolutions-là pour examiner l'année 2015 et vous engager dans vos cœurs pour l'année 2016. Dans quelques minutes, après avoir loué un peu, on va prendre le repas du Seigneur, puis on va terminer ce temps-là avec des membres du conseil qui vont venir faire une prière de repentance et de consécration collective. On va prier ensemble. Les frères, on va prier avec vous pour qu'ensemble, on puisse se repentir à la lumière de ces 7 résolutions-là. Sur là où on a manqué en 2015, et qu'on puisse s'engager, consacrer nos cœurs pour l'année 2016, pour marcher comme des amis de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, c'est bon de commencer cette nouvelle année avec ce moment calme, paisible dans ta parole. C'est bon, Seigneur, de prendre le temps quotidiennement, régulièrement et comme ça en début d'année, de s'examiner, Seigneur. Père, tu nous as placés à une époque comme à la tienne, Seigneur Jésus, où le monde autour de nous est intrigué et intéressé par ton message, mais en même temps, souvent à la fin de l'histoire, lorsqu'il découvre combien tu es unique, merveilleux, magnifique, Seigneur, trouve peut-être que c'est trop beau pour le croire et décide de te rejeter. Mais ce monde-là, Seigneur, a besoin de voir la lumière que tu as placée dans nos cœurs briller à travers nos bonnes œuvres. Ce monde, Seigneur, ce Québec, cette ville de Longueuil a besoin que les amis de Jésus qui habitent la ville du Grand Longueuil, toute la rive sud, la Montérégie, Seigneur, prennent position pour toi, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire en 2016. Viens nous bénir ensemble, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos cœurs d'adoration. Amen.